Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. D'ici 20 minutes, avec mon invité, l'ancien ministre des Affaires européennes du gouvernement britannique, Denis McShane, nous évoquerons ce prince qui, pendant plus d'un demi-siècle, a secondé dans l'ombre la souveraine britannique, ce roc si important pour Elisabeth II. Il incarnait une génération qu'on ne reverra jamais, dit aujourd'hui le Premier ministre australien. Avec sa disparition, est-ce une page qui se tourne aujourd'hui en Grande-Bretagne? À partir de 18h30, avec les grandes voix d'Europe 1, on reviendra sur les défiances, encore et toujours, autour du vaccin AstraZeneca. Et puis entre 19h et 20h, c'est votre débat du Club des idées d'Europe Soir. On vous parlera d'une passion française, la généalogie, troisième passe-temps préféré des Français, derrière le bricolage et le jardinage. Ça vous surprend? Eh bien, moi aussi, ça m'a surpris. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en savoir plus. D'autant que parmi ces passionnés, il y a, paraît-il, de plus en plus de jeunes. Mais avant cela, l'info tout de suite avec le journal présenté par Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle.
Merci à vous d'écouter Europe 1, il est 18h.
L'Angleterre pleure le prince Philippe. Il s'est éteint ce matin à 99 ans. Une vie et un travail extraordinaire, dit ce soir le Premier ministre Boris Johnson.
Et nous accorderons évidemment une large place dans ce journal à cette personnalité complexe qui est arrivée à Buckingham sur la pointe des pieds avant d'imposer son style et son caractère.
Amateur d'art et de peinture, fervent défenseur de la cause écologique mais fasciné par les avions, portrait d'un homme qui a bousculé les codes de la royauté britannique.
Son épouse Elisabeth II voyait en lui un roc, un soutien. La famille Windsor et l'aristocratie britannique moquaient au contraire ce prince de nulle part et de rien. Stéphane Bern sera avec nous et nous racontera qui était vraiment le prince Philippe.
Dans le reste de l'actualité, le début des vacances de printemps ce soir, mais les forces de l'ordre ont reçu la consigne. Cette fois, c'est tolérance zéro pour ceux qui s'aventurent au-delà des 10 km autorisés.
Du nord de la France à la vallée du Rhône et en passant par le sud-ouest, le gel a provoqué d'immenses dégâts dans les récoltes. Le ministère de l'Agriculture déclenche le régime de calamité agricole.
La Bourse de Paris a équilibre plus 0,06% à 6169 points.
La météo, bonsoir Anissa Adali.
Bonsoir Isabelle.
La pluie est de retour.
Oui, ça y est, le week-end qui arrive s'annonce gris, pluvieux et venteux. Nous avons une dépression très active qui va toucher quasiment toutes les régions. Seule consolation, la hausse des températures qui retrouve enfin des valeurs de saison. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un communiqué très court publié ce matin sur le site de Buckingham. Un communiqué et une photo en noir et blanc. On voit le prince Philippe en uniforme. Le texte est sobre. C'est avec un profond c'est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son époux bien-aimé.
Oui, le prince Philippe, duc d'Édimbourg, qui avait 97 ans, il aurait dû fêter ses 100 ans au mois de juin. Depuis l'annonce de sa disparition, bien sûr, les Britanniques viennent lui rendre hommage. Élodie Goulès, que vous êtes devant le palais de Buckingham.
Oui, exactement. Et devant les grilles du Palais Royal en ce moment, eh bien, il y a des gens de toutes les générations. Certains sont là par curiosité, alors que d'autres sont venus se recueillir. Une foule soudaine qui a même obligé le palais à enlever l'écriteau déposé plus tôt dans la matinée et qui annonçait la mort du prince Philippe. Des précautions liées au coronavirus, mais qui n'ont pas empêché Colin, 75 ans, d'apporter des fleurs et de venir se recueillir devant le palais.
Le prince Philippe est un homme que j'ai connu toute ma vie. C'est un homme formidable et il a tellement fait pour ce pays que je suis honoré d'être ici aujourd'hui.
Alors le drapeau est toujours hissé sur le toit de Buckingham Palace. Il n'est pas en berne, il est seulement à demi baissé pour marquer le deuil. Car aujourd'hui, les pensées des Britanniques ne vont pas seulement vers le prince Philippe, mais aussi vers la reine. C'est ce qu'explique Sandy, qui habite juste à côté de Buckingham Palace.
Nous sommes vraiment tristes pour la reine. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Et il a toujours été à ses côtés pendant les moments difficiles. Elle est un exemple pour nous tous.
Alors si l'annonce du décès du prince Philippe attriste évidemment le Royaume-Uni, elle n'est pas arrivée comme une surprise. Le duc d'Édimbourg avait été hospitalisé, rappelez-vous, pendant un mois en mars dernier pour des problèmes cardiaques. Prince Philippe, comme on l'appelle ici, aurait dû souffler sa 100e bougie dans 2 mois et 1 jour.
Élodie Goulesque, en direct de Londres, on dressera dans quelques instants le portrait du prince Philippe, mais on va s'arrêter sur l'un de ses combats.
Oui, l'écologie. L'écologie était l'une des raisons d'être du prince Philippe. Il a même un temps dirigé le WWF et figurez-vous que si la Loire est le dernier fleuve sauvage d'Europe, eh bien c'est grâce à lui, cette passion, ce combat pour l'écologie. Il était venu en parler en 1991 sur Europe 1 avec Jean-Pierre Elkabbach dans l'émission Pile et Face.
J'étais dans la marine pour 12 ans, alors on était toujours sur la mer. Si on habite dans la ville tout le temps, on n'est pas conscient de ça. Alors, on ne peut pas dire que c'est une patience, c'est quelque chose qu'on a appris.
Et est-ce que Sa Majesté la Reine soutient votre action dans le domaine de l'écologie ?
Elle n'est pas contre.
Mais elle n'est pas pour ?
Oui, ça c'est...
Elle soutient ?
Ah oui, pourquoi pas. Ouais.
Ouais. Elle participe pour la défense ?
Elle a assez à faire à lui-même.
Le prince Philippe sur Europe 1 dans l'émission Pile et Face avec Jean-Pierre Elkabbach. Il y a l'émotion des Britanniques, mais la mort du prince Philippe provoque de nombreuses réactions dans le monde entier. Les hommages se multiplient, Isabelle.
Oui, évidemment, notamment Emmanuel Macron, tout à l'heure sur Twitter, qui salue une vie exemplaire. Berlin, une longue vie passée au service de son pays. L'ancien président George Bush parle d'un homme qui représentait le Royaume-Uni avec dignité. Le prince avait le sens du service et du dévouement, écrivent quant à eux ce soir le roi et la reine d'Espagne.
Oui, ce ne sont que quelques-unes des réactions et elles sont bien trop nombreuses pour que l'on puisse toutes les citer. Elle dessine en creux le portrait d'un homme qui incarne une génération, mais qui était aussi un personnage très complexe. Le prince Philippe a eu un parcours que l'on peut qualifier d'exceptionnel, Emmanuel Duteil.
Je vous emmène à Londres. On est le 20 novembre 1947. Je peux vous dire qu'il fait un petit peu frais ce jour-là à Londres. 1 million de personnes massées le long du parcours pour le mariage d'Elisabeth II et du prince Philippe. C'est un événement, un mariage désiré par Elisabeth II qui était tombée sous le charme de ce très bel officier de la Navy. Avec ce mariage, on change tout simplement d'époque. C'est le premier mariage royal à être diffusé en direct à la télévision.
Dans l'abbaye de Westminster, où depuis les plus anciens âges se déroulent les
Et ce mariage, c'est le jour le plus important pour le prince Philippe. C'est son entrée sur la scène internationale. Il a 26 ans et pour lui, c'est une sorte de conte de fées. Un vrai conte de fées. Né prince de Grèce et de Danemark le 10 juin 1921 à Corfou en Grèce, il n'était pas prédestiné à être l'époux d'Elisabeth II. Il marchera pourtant toujours 2 pas derrière elle. C'est le protocole qui l'impose pour lui qui n'a jamais réussi à obtenir le titre de roi. Le prince Philippe ne cachera jamais sa frustration sur ce point, mais il sera dévoué à la couronne. Il va parrainer jusqu'à 780 organisations dans les différents pays du Commonwealth. Alors là, pourquoi ça fait rire ? Parce qu'il vient de nous dire « vous allez être sur le point de voir l'expert mondial » des inaugurations de plaques. Alors c'est vrai qu'il avait à côté de ça plein de passions. Il était fan de sport, il était fan de compétition équestre, il était fan d'art, il était fan d'aviation. Et le prince Philippe avait, oui, beaucoup d'humour, mais on l'appelait aussi le roi des gaffes. Pour ça, au moins, il avait réussi à obtenir le titre de roi. Il faut dire que ses gaffes sont nombreuses. Comme en ce jour de 2013, on est dans un hôpital britannique.
D'où venez-vous ?
Je viens des Philippines.
Les Philippines ? Le pays doit être à moitié vide. Vous êtes tous ici.
On recrute de l'école juste à côté.
Visiblement, pas vraiment. Parfois, en tout cas. Elles viennent de l'autre bout du monde. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette école ?
Alors, on parlait bien évidemment beaucoup de ses gaffes et on parlait aussi de ses infidélités. Il a été, malgré tout, un soutien sans faille de la reine Elisabeth II qui parlait de lui comme son roc. Sa santé était plus fragile depuis quelques années. Il avait même dû prendre sa retraite publique en 2016 après avoir honoré son 22 millième engagement en solo. En 2019, il renonce à conduire, vous en souvenez peut-être, après un retentissant accident de voiture qui avait fait grand bruit. On était alors aux abords du château de Windsor. Mais c'est le chef de la famille malgré tout. Il avait à côté de ça des relations très tendues avec Charles. Charles est un romantique, je suis un pragmatique, aurait-il dit à son biographe. Mais le grand-père de l'Angleterre était entré dans le cœur de tous les Britanniques. Un grand-père qui était revenu presque sur le devant de la scène à l'aune de la série The Crown.
Êtes-vous mon épouse ou êtes-vous ma reine ?
Je suis les deux et un homme fort serait capable de s'agenouiller devant les deux.
Agenouiller devant mon épouse est hors de question.
Votre épouse ne vous le demande pas.
Mais ma reine me l'ordonne, n'est-ce pas ?
Oui.
Je vous demande de faire une exception pour moi.
Une exception. Alors on va dire qu'aujourd'hui, il a peut-être tenu son tout dernier rôle. Mais là aussi, malheureusement pour lui, même s'il avait voulu une cérémonie plutôt modeste, il va devoir se contenter d'une cérémonie encore plus modeste pour cause, bien évidemment, du Covid.
Emmanuel Duteil, passionné d'histoire et notamment de tout ce qui touche à l'histoire de la royauté. On va maintenant interroger un homme qui connaît bien lui aussi les têtes couronnées. On peut même dire que c'est sa spécialité. Bonsoir Stéphane Bern.
Bonsoir, bonsoir à tous.
On vient de l'entendre dans le portrait qu'on a fait Emmanuel Duteil. Le prince Philippe a eu littéralement plusieurs vies. Il y a eu l'exil de ses parents. Lui-même a été trimballé de pensionnat en pensionnat. C'est un homme qui s'est construit dans l'adversité quelque part.
Oui, certainement. Et c'était l'homme justement des moments difficiles. Et c'est pour ça qu'il a peut-être du mal avec, il avait du mal ces derniers temps avec les mollesses des uns et des autres ou pas en réalité, c'était un battant. Il était sportif, c'était un viking, il était autant grec que danois surtout, et c'est vrai que d'ailleurs, c'était un colosse physique quand il a séduit la future reine Elisabeth. Marion Crawford, qui était la nounou de la princesse Elisabeth, la princesse Erika, a dit « Oh, il fait le pont ». C'est vrai qu'il avait un côté parfois un peu arrogant, mais en fait, c'était quelqu'un de très sensible qui reprochait au fond d'être une foutue amie, c'est son expression. Et parce qu'il avait le sentiment que, justement, comme le disait Emmanuel Duteil, il n'avait jamais accédé au boxier, aux boîtes. C'est-à-dire que jamais la reine ne lui avait confié un roulissant de sel. Mais encore une fois, ce qui est important, et ce qui était très bien dit, c'était la reine était le chef de l'État et chef du
gouvernement. Stéphane, on va vous interrompre. Je suis confuse, hein, Stéphane Bern, mais la liaison est vraiment très mauvaise et on s'inquiète un peu pour nos auditeurs. On est vraiment désolé. On vous retrouvera évidemment sur l'antenne d'Europe 1. On aura l'occasion d'en reparler avec vous. Et puis, je vous rappelle que je recevrai également tout à l'heure à 18h20 pour évoquer le prince Philippe. Je recevrai l'ancien ministre britannique des Affaires étrangères qui sera mon invité tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
18h12, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre sur Europe 1. Et cette fois, l'école est bien finie hein, pour 15 jours. C'est le début des vacances scolaires ce soir. Mais cette fois, pour s'échapper, c'est interdit. Hein.
Et oui, 10 km autour de son domicile. Au-delà, il faudra une raison impérieuse. Autrement dit, une sacrée excuse parce que cette fois, il n'y aura pas de tolérance. Les policiers et les gendarmes vont sévir, rappelle le ministère de l'Intérieur. Direction l'autoroute A6 à Lyon, route traditionnelle des vacances vers la Méditerranée ou les Alpes. Vous nous le confirmez, Jean-Luc Boujon, les forces de l'ordre ont reçu des consignes.
Oui, la première consigne, c'est d'être présent et visible, hein, comme ici au péage de Villefranche-sur-Saône, juste avant Lyon. Une dizaine de gendarmes contrôlent les automobilistes. La plupart du temps, ça passe, hein, tout est en règle. Mais ici, petit problème pour ces Parisiens, qui évidemment sont à plus de 10 km de chez eux.
Il serait possible de voir votre attestation de déplacement, s'il vous plaît.
Désolé, on n'a pas fait l'attestation en fait, sur Stop Covid, comme on fait un long trajet. Pour qu'on la fasse maintenant
La 30 ans, vous allez labelliser pour la circulation en France, malgré le confinement, sans l'attestation.
Voilà, 135 € pour absence d'attestation, ce qui énerve passablement Tristan, le père de famille.
Nous allons dans les Cévennes pour faire garder les enfants par leur grand-mère. On a oublié de faire 3 clics sur une attestation et on va être visiblement verbalisé. On a mis en danger personne. C'est la belle administration à la française, les gouvernements qui n'ont pas fait leur boulot, qui n'ont pas commandé de vaccins, qui n'ont pas maîtrisé la pandémie et tout retombe sur le dos des citoyens. Visiblement, ils ne savent rien faire d'autre qu'emmerder le monde.
Le sous-préfet de Villefranche, Jean-Jacques Boyer, assume cette sévérité appliquée avec discernement, selon lui.
Et les personnes qui en profitent pour partir font courir un risque à nos concitoyens, puisque les mesures renforcées, elles ont pour objectif d'éviter au maximum les contaminations, donc il n'y a pas de départ en vacances.
Voilà, hein, des transgressions qui restent tout de même une exception. Il n'y a qu'à voir le faible nombre de voitures qui passent à ce péage de Villefranche ce soir. En temps normal, un vendredi soir, veille de vacances scolaires, il aurait été engorgé, ce qui veut bien dire que la majorité des Français ont choisi de ne pas se déplacer ce week-end.
Le reportage de Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Emmanuel Macron a visité aujourd'hui l'usine du groupe Delpharm. C'est en Eure-et-Loire et c'est là que seront mis en flacon les flacons de Pfizer et de BioNTech.
Oui, quant aux moins de 55 ans vaccinés avec une première dose d'AstraZeneca, ils se verront proposer une deuxième injection avec un vaccin différent, recommandation de la Haute Autorité de Santé. Cela concerne plus de 530 000 patients.
Et on y reviendra tout à l'heure avec les grandes voix. On parle maintenant de l'une des pires catastrophes pour l'agriculture française. La vague de froid et de gel a détruit des milliers d'hectares de fruits, de vignes et de céréales.
Plusieurs centaines de milliers d'hectares, dit le ministre de l'Agriculture, qui a déclenché le régime de calamité agricole. Le gel a touché pratiquement toute la France et toutes les cultures, du nord à la vallée du Rhône, en passant par le sud-ouest. Rien que dans le nord, par exemple, 40 000 hectares de betteraves ont gelé. Une situation inédite et catastrophique pour la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert.
Ils sont remontés à 1956 pour avoir des températures de gel aussi forte. Parmi les régions qui sont moins touchées, il y a l'Alsace et les Charentes, mais c'est assez exceptionnel que l'ensemble de la France soit touchée. Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Occitanie, Gironde, 35% de pertes, et dans certains territoires, c'est 100% de pertes. Tout est détruit pour certains viticulteurs et arboriculteurs. C'est dramatique parce que c'est la récolte de l'année qui est fichue. Pour les producteurs de betteraves, ils vont essayer de ressemer, idem pour le colza. Mais quand il s'agit d'arbres fruitiers ou de vignes, il n'y a rien à faire. Et s'il y a moins de fruits, il y a un risque effectivement que les prix soient plus élevés. Donc la situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, Il faut vraiment que le gouvernement prenne la mesure. Le fonds de calamité indemnise, mais pas tout, jamais tout. Et dans le meilleur des cas, ça met 4 mois pour arriver sur les exploitations. Donc, il faut aller très vite pour les expertises et la remontée des données chiffrées des pertes.
La présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, elle répondait à Laura Taouchanov dans le journal de Christophe Lamarre. La météo, Anissa Adadi, on vous retrouve. Demain, le temps sera bien plus gris.
Oui, la dégradation, Isabelle, qui est arrivée aujourd'hui, qui a notamment touché les régions situées à l'ouest du pays, au bord de l'Atlantique. Eh bien, cette dégradation, elle va s'étendre sur presque tout le pays demain, sur les deux tiers nord, du Bordelais jusqu'au Grand Est, en passant par les Pays de la Loire, le Centre, la Bourgogne, le Nivernais, les Hauts-de-France. Eh bien, dans toutes ces régions, il pleut demain toute la journée. Des pluies qui s'installent. Ça va même continuer dimanche avec des flocons de neige, mais ça j'aurai l'occasion de vous en reparler. Dans le sud, en Occitanie, en Auvergne et sur la vallée du Rhône, le temps reste sec. Et puis, eh bien, dans le sud, nous avons une autre dépression. Là, ce sont des pluies qui arrivent de Méditerranée, qui vont donc toucher les Cévennes avec de la pluie toute la journée et l'île de Beauté. Vraiment, c'est un temps qui ressemble plutôt à une journée automnale. Ce qui va nous faire penser au printemps, c'est les températures qui remontent demain, une vraie hausse avec des valeurs en fin de saison, avec 5 degrés à Rodez, 6 à Lille, 7 à Nantes, 9 degrés pour Paris et 12 à Biarritz le matin. C'était des valeurs que nous avions l'après-midi, il y a quelques jours encore. Hein. Et puis au meilleur de la journée, on aura 13 degrés à Vannes, 14 à Paris, 18 à Marseille et 22 la maximale pour Mont-de-Marsan.
On va retenir que les bonnes nouvelles, la hausse des températures.
C'est ça.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo.
À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
18h20, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et on l'évoquait tout à l'heure dans le journal. On a donc appris à la mi-journée la disparition du prince Philippe, l'époux de la reine d'Angleterre, Philippe Mountbatten, duc d'Édimbourg, qui s'est éteint à 99 ans. Bonsoir Denis McShane.
Bonsoir Isabelle.
Vous êtes ancien ministre britannique des Affaires européennes. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct sur Europe 1 pour évoquer cette disparition à laquelle les Britanniques s'attendaient vu le grand âge de leur prince, hein, mais qui reste néanmoins un choc pour eux parce que ce prince, il était très apprécié, très respecté. Hein.
Exact. Oui, on savait à l'âge de 99 ans. Et il a passé 3 semaines à l'hôpital récemment. On espérait qu'il allait continuer jusqu'à son 100e anniversaire mi-juin. Mais non, il est parti. Oui, un grand sens, même si c'est pas comme la mort soudaine de Prince Diana ou l'assassinat ou quelque chose d'horrible comme ça. Mais quand même, il y a une tristesse. C'est la fin. C'est la fin d'une certaine idée d'Angleterre qui est en train de disparaître.
C'est la fin d'une certaine idée de l'Angleterre. Il incarnait une génération qu'on ne reverra jamais, dit aujourd'hui le Premier ministre australien. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que pour les Britanniques, avec le prince Charles, le prince William, ce sera différent. La disparition du prince Philippe, elle va vraiment marquer une rupture dans la monarchie?
Oui, certainement, parce que il était là pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est venu presque, je dirais, de nulle part, de la Grèce. On l'appelait ici familièrement Phil the Greek, Philippe le Grec, parce que il est un de ces familles royales mélangées danois, allemands, je sais pas. Il avait des sœurs qui ont épousé des grands nazis. Mmh. Mais non, lui était arrivé ici assez pauvre, protégé un peu. On pensait en école tout de suite dans le Royal Navy à l'âge de 16 ou 17 ans. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il était combattant. Et puis, un peu un conte de fées, épousant le prince, la petite princesse Elisabeth après la guerre. Et voilà. Et oui. Nous sommes quoi, 70 ans plus tard? Et maintenant, c'est la fin.
Vous évoquiez cet amour avec la reine Elisabeth. Elle dit que c'était son épouse, c'était un roc, hein, presque 74 ans de vie commune. Il y avait une grande complicité entre eux, même si tout n'a pas toujours été facile. Elle a toujours pu compter sur lui, hein, malgré les coups de canif parfois dans le contrat.
Exact, mais aussi, je pense, moi... l'idée qu'il est là, 27, 8 ans, viril, sûr de lui, dominant, un leader, un chef de la marine. Et il devait accepter d'être toujours un mètre derrière sa femme pour le reste de sa vie. garder sa langue un peu, même si parfois il y a des gaffes et des sorties très amusantes, et fonder une famille qui avait pas mal de problèmes. Donc lui et sa majesté, absolument stable, un couple, avec les difficultés, c'est normal, mais quand même jamais question de divorce, jamais question de séparation. Par contre, le prince Charles, la princesse Anne, le prince Andrew, maintenant le prince Harry et le reste, c'est que la dernière image de cette famille royale si stable au centre de notre existence constitutionnelle.
Ouais, je voulais qu'on revienne, vous disiez qu'il était toujours deux pas derrière la reine. C'est vrai que pour elle, il a accepté tous les sacrifices, hein. Il a renoncé à sa nationalité, à sa religion, il était orthodoxe, à ses titres, sa carrière d'officier de la Navy qu'il passionnait pour épouser la femme qu'il aimait. Alors la jeune génération, en tout cas ici en France, le redécouvre avec la série The Crown, hein, qui fait un carton chez nous. On découvre notamment le poids qu'il a joué en coulisses, hein, après tous ces efforts qu'il avait fait.
Oui, j'adore le Crown. Nous aussi sommes absolument obsédés par cette feuilleton. Est-ce que c'est vraiment vérité? Qui sait? Et à la fin, le succès de la famille royale, qu'il reste à part de la politique. Ils sont pas des petites vierges au Buckingham Palace. Ils ont un petit département d'État, un mini Élysée, avec des conseillers fortement compétents. Mais la règle d'or, non, on n'a pas d'ingérence.
Ouais, il a dû se heurter au protocole de Buckingham, qui était un rappel permanent, hein, de son second rôle. Il a toute sa vie dû s'effacer parce que la patronne, c'était elle, hein.
Oui, mais parfois il était avec la reine, il fait en Chine dans les années 80, et il y avait les premières ouvertures de la Chine communiste à l'époque, et il y avait une groupe des étudiants anglais, et il leur a dit attention, si vous restez ici trop longtemps, vous allez rentrer avec les yeux bridés.
Oui, ça c'est dans la série des gaffes et des. il était parfois un petit peu incontrôlable aux limites de l'incident diplomatique. C'est vrai qu'il y a pas mal d'anecdotes, hein, qui circulent sur lui, hein. Il était sans filtre, on va dire. Il mettait souvent les pieds dans le plat, le prince Philippe.
Un peu, pas trop souvent. Il ne faut pas exagérer. Il a tâché, on dit, de moderniser le palais, la famille royale, en tournant un film documentaire BBC fin des années 60. C'était un désastre. C'est tout dans le feuilleton, le Crown. Le famille royale anglaise, c'est un peu comme le Vatican. Mm-hmm. Le pape, vraiment, il ne faut pas chercher à trop moderniser.
Mais ça va devenir quoi maintenant, la famille royale?
Très intéressante question, Isabelle. Par exemple, la reine, maintenant, elle a 95 ans. Elle attendait le départ parce que c'est clair que son mari était en train de s'affaiblir ces dernières années. Mais elle est extraordinaire. On avait la dernière reine, Victoria, qui a aussi régné, je crois, sur 74 ans, je ne sais pas exactement. Mais son mari était mort en 1861, je crois, si mes études d'histoire Oxford sont correctes. Et après, elle est vêtue en noir pour le reste de la prochaine 40 ans. Elle a passé les dernières années dans chaise roulante. Sa Majesté monte à cheval.
Dites-nous juste rapidement, Denis McShane, le duc d'Édimbourg, il aura un hommage national ou plutôt des funérailles militaires comme il le souhaitait? Il a dit « je ne veux pas de tralala ».
Exact. Non, on annonce que pas des grands funérailles de l'État, pas des défilés des soldats à Londres, plutôt peut-être à Windsor, pas un enterrement rapide, mais quand même, on est sous le régime de Covid,
oui, bien
donc
sûr,
pas
donc
plus d'une vingtaine ou une trentaine de personnes. Donc, serait calme. Et en effet, je crois, c'est pas forcément une mauvaise chose.
Parce que ça lui ressemblera finalement, des funérailles plutôt discrètes.
Exact. Il reste comme le reste du peuple.
Merci.
Voilà. C'est pas... Voilà.
Merci beaucoup, Denis McCain, ancien ministre britannique des Affaires européennes, d'avoir été en direct avec nous ce soir sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
18h30, le rappel des titres avec vous, Christophe Lamarre.
La mort du prince Philippe à 99 ans, les Britanniques ont commencé à se regrouper autour de Buckingham Palace ce soir où les drapeaux ont été mis en berne. Les réactions internationales à la mort du prince Philippe sont évidemment nombreuses. Sur Twitter, Emmanuel Macron salue une vie exemplaire. Berlin parle d'une longue vie passée au service de son pays. L'ancien président George W. Bush parle d'un homme qui représentait le Royaume-Uni avec dignité. Le prince avait le sens du service et du dévouement, écrivent ce soir le roi et la reine d'Espagne. Du nord de la France à la vallée du Rhône et en passant par le sud-ouest, le gel provoque d'immenses dégâts dans les récoltes, plusieurs centaines de milliers d'hectares touchés selon le ministère de l'Agriculture qui déclenche le régime de calamité agricole. Les moins de 55 ans qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca pourront se faire injecter une deuxième dose d'un autre sérum ARN messager. Ce sera soit Pfizer-BioNTech ou Moderna. Décision de la Haute Autorité de Santé, plus de 530 000 patients sont concernés.
Merci Christophe Lamarre, l'info revient avec vous à 19h. Nouveau journal complet. Anissa Haddadi, demain vous nous annoncez de la douceur, mais sous un ciel gris.
Oui, on en a fini enfin avec les gelées matinales. C'est vrai que demain il va faire bien plus doux, avec 5 à 12 degrés sur l'ensemble du pays. Nous aurons 5 degrés à Caen et Avignon, 7 pour Clermont-Ferrand, 8 à Lyon et Besançon, déjà 9 degrés à Paris demain matin, 10 à Nice et Bordeaux et 12 à Biarritz. Dans l'après-midi, de la grande douceur aussi, particulièrement dans le sud. Alors nous aurons 8 à 22 degrés, 14 degrés pour Paris, 10 petits degrés à Lille, 17 à Tours, 18 à Lyon, 19 à Strasbourg et 22 degrés la maximale pour Agen. Dans le ciel, là c'est autre chose, hein, c'est beaucoup moins printanier. Sur la moitié nord, la pluie s'installe toute la journée. Dans le sud, sur les Cévennes et la Corse, nous aurons là aussi de la pluie toute la journée. Puis entre ces deux dépressions pluvieuses, nous aurons sur les régions de l'Occitanie, le sud du Massif central et une partie de la vallée du Rhône. Dans ces régions-là, un temps plus sec, un soleil souvent voilé, mais en tout cas, il n'y aura pas de pluie.
C'est une bonne nouvelle. Merci Anissa. Rendez-vous à 19h pour un nouveau point météo complet.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
Et on ouvre ce soir le débat des grandes voix du vendredi à 18h32 sur Europe 1. Avec ce soir à mes côtés, un nouveau venu, tiens, dans ces grandes voix, Louis Osalter, journaliste politique à Marianne. Bienvenue, bonsoir.
Merci Isabelle. Bonsoir.
Henri Vernet, rédacteur en chef au Parisien. Et Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Bonsoir.
Bonsoir Isabelle.
Merci beaucoup à tous les trois de m'accompagner ce soir. Alors Emmanuel Macron a revêtu Charlotte et blouse blanche ce matin pour visiter l'usine du groupe Delpharm en Eure-et-Loire, qui vient de commencer à mettre en flacon le vaccin de Pfizer-BioNTech, alors que la France a franchi le cap des 10 millions de vaccinés qui ont reçu une première dose. On a l'impression que ça y est, cette campagne, elle est enfin sur les rails, sauf qu'il y a toujours cette méfiance envers AstraZeneca. Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé a annoncé que les moins de 55 ans qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca donc recevront une seconde dose d'un autre vaccin, ARN, cette fois-ci Pfizer ou Moderna. Ça concerne quand même 533 000 Français, c'est beaucoup, majoritairement des personnels soignants. Alors on a un petit peu de mal à suivre, je ne sais pas vous, mais cette décision de la Haute Autorité de Santé, est-ce qu'elle ne risque pas d'embrouiller un peu les Français et d'alimenter encore cette méfiance, Henri Vernet ?
Bah oui, certainement. Là, vraiment, si on avait voulu brouiller le message et décourager, j'allais dire, les bonnes volontés, on ne pourrait pas s'y prendre autrement. Surtout que là, vous citez une haute autorité, mais dans le même temps, aujourd'hui, on a plusieurs autorités qui se sont exprimées, autorités scientifiques, médicales, j'entends, en France, mais également dans d'autres pays. Et en gros, chacun y va de sa prescription concernant ce vaccin, l'AstraZeneca. Alors, c'est différence liée à l'âge. Je crois que pour
oui,
les uns, les Britanniques, c'est 30
les pays,
ans, les autres, c'est 55 ans. Deuxième dose ou pas deuxième dose, en effet, est-ce qu'on peut mélanger ou pas? L'OMS, j'entendais tout à l'heure, qui a quand même un petit peu la main depuis le début, même si elle est décriée sur cette affaire de vaccination, dit que non, il déconseille cette espèce de, j'allais dire, de cocktail de sérum.
Oui, il dit même que l'interchangeabilité des vaccins n'est pas quelque chose à recommander à ce stade.
Oui, personnellement, je n'ai rien d'un médecin, ni d'un épidémiologiste, ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que le bon sens conduirait à dire que oui, c'est quand même un drôle de mélange. Et puis en France même, encore une fois, des départements qui qui, eux, de toute façon, disent non, de toute façon, AstraZeneca, on n'en veut pas parce que nous, on a des variants, c'est-à-dire les départements de l'Est. Bref, comment s'y retrouver? C'est de nouveau un couac extrêmement important, alors avec ce vaccin, mais pas que celui-là, alors qui n'est pas spécialement dû à la France, hein, c'est là, ça tient au vaccin. Néanmoins, il y a en effet un brouillage de messages au moment où, en effet, avec les vaccinodromes, la grande innovation, là, c'était les vaccinodromes, c'était, on a enfin compris que la vaccination, maintenant, c'est l'axe principal. Il n'y a pas d'autre stratégie en France. Hein. Stratégie du zéro Covid, dépistage, traçage, isolement, ça s'est terminé, donc on est là-dessus. Eh bien, cette stratégie, à peine lancée, elle est handicapée par cette nouvelle affaire.
Un brouillage de messages, dites-vous, Henri Vernet. Emmanuel Macron, pourtant, il a tenté de rassurer hein, ce matin encore. Il a défendu l'utilisation de ce vaccin AstraZeneca.
Je me fie aux autorités sanitaires pour vous dire que le vaccin AstraZeneca, il est aujourd'hui recommandé, il doit être utilisé en suivant ses préconisations en termes d'âge. On ne l'utilise pas pour les plus jeunes, mais pour les plus de 55 ans, on l'utilise aujourd'hui, surtout quand on a un facteur de risque.
Je me fie aux autorités sanitaires, dit Emmanuel Macron aujourd'hui. Louis Osalter, il fait ce qu'il faut pourtant pour rassurer le chef de l'État?
Oui, alors le problème de Macron, c'est que, et d'ailleurs il a commencé à l'esquisser timidement ce matin, c'est qu'il, en fait, il n'a pas cru à un vaccin aussi rapide. Depuis le début de l'histoire, l'une des raisons pour lesquelles la France patine au niveau des vaccins, c'est que le sommet de l'État, et Emmanuel Macron en particulier, n'ont pas cru que Pfizer, notamment, allait mettre au point aussi rapidement un vaccin avec une technologie aussi avancée, qui était l'ARN messager, qui est le vaccin qui a bien meilleure réputation qu'AstraZeneca quand même depuis le début, qui est efficace, y compris visiblement contre les variants. Donc Emmanuel Macron qui aime bien faire des paris, là pour le coup ce pari-là il ne l'avait pas fait. Alors il n'est pas médecin, hein, je ne suis pas en train de dire que
ah,
tout le monde
avait... Du coup, oui,
tout
le monde a l'impression que c'est le meilleur en France.
Sur les médecins, oui, alors il paraît qu'il est épidémiologiste de très haut niveau, mais en réalité non seulement il n'est pas médecin, mais en plus il n'avait pas cru à ce qu'un vaccin débouche et arrive aussi vite en Europe. Bon, maintenant c'est le cas, il essaie d'organiser cette campagne de la moins pire des façons. Le problème du vaccin AstraZeneca, c'est que finalement, là où cette, le fait de ne pas l'employer pour les moins de 55 ans a beaucoup de sens, c'est que les médecins ont beau marteler le calcul bénéfice-risque pour les vaccins, si vous avez moins de 30 ans, depuis le début de l'épidémie, c'est-à-dire depuis le 1er mars 2020, il y a eu uniquement 74 morts de moins de 30 ans du Covid à l'hôpital. Donc si vous avez moins de 30 ans en France et qu'on vous propose un AstraZeneca, je comprends que vous y réfléchissez quand même à deux fois avant de prendre un vaccin pour lequel l'Agence européenne du médicament a pointé hier la réalité, effectivement, en tout cas le lien avec les thromboses et les caillots sanguins est possible et qu'il pose problème en France, mais aussi dans d'autres pays européens. J'ajoute un dernier chiffre accablant pour Emmanuel Macron, là aussi, c'est qu'on est à 15% de Français vaccinés. On nous martèle le chiffre des 10 millions de premières doses, qui sont que des premières doses. En pourcentage, c'est 15% de la population aux États-Unis et en Angleterre. C'est la moitié de la population aujourd'hui qui a reçu une première dose. Là, le comparatif, il risque quand même énormément de jouer politiquement en défaveur pour le chef de l'État.
Je propose qu'on poursuive ce débat dans un tout petit instant sur Europe 1. Je vous donne la parole, c'est promis. Louis Dragnel, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
18h39, c'est la suite de votre débat des grandes voix du vendredi sur Europe 1, avec toujours à mes côtés Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1, Louis Osalter, journaliste politique à Marianne, et Henri Vernet, rédacteur en chef au Parisien. On revient donc sur cette défiance qui continue encore et encore autour du vaccin AstraZeneca, alors que aujourd'hui la Haute Autorité de Santé a annoncé que les moins de 55 ans qui ont déjà reçu une première dose recevraient une seconde dose, mais cette fois d'un vaccin à ARN, Pfizer ou Moderna. Alors il y a de nombreuses voix politiques et scientifiques qui disent aujourd'hui qu'il est hors de question de perdre des doses face à cette défiance et qu'il faut donc les proposer ces AstraZeneca à tous ceux qu'ils souhaitent, finalement, à tous les volontaires, en les mettant bien sûr au courant des risques. C'est le cas notamment de Valérie Pécresse.
Il y a beaucoup de Français qui sont prêts à se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca. Il y en a plein. Donc si on s'aperçoit que les personnes prioritaires, c'est trop restrictif et qu'on n'arrive pas et qu'on reste avec des doses, il faut se fixer un principe simple. Zéro gaspillage, zéro stock, ça veut dire pouvoir ouvrir la vaccination au-delà des personnes autorisées s'il reste des stocks, s'il reste des vaccins.
Louis Dragnel, vous pensez qu'elle a raison, Valérie Pécresse? Elle n'est pas la seule, hein, je précise, à dire ça. Il y a aussi des infectiologues, hein, qui partagent son avis, qui disent arrêtons ces critères de comorbidité, expliquons simplement les risques qui, on le rappelle, sont quand même minimes. Et puis donnons-le à ceux qui en veulent, finalement.
Bien sûr, mais ce que vous venez de dire est très important, c'est qu'en fait, c'est epsilon, c'est quasiment rien. En fait, il y a très peu de cas il y a très peu de risques de thrombose. Alors effectivement, à chaque fois, ce sont des cas dramatiques, mais quand on compare avec d'autres vaccins, même des vaccins contre le tétanos ou d'autres vaccins un peu que tous les petits Français ont pendant leur enfance, oui. C'est quand même assez marginal. Ensuite, moi, je trouve que oui, au point où on en est, en fait, le discrédit sur le vaccin, il est avéré. Je crois que Henri Vernet et Louis Osalter l'ont bien démontré. Il y a eu des échecs politiques, il y a eu une incapacité aussi de la part du pouvoir d'Emmanuel Macron à expliquer à rassurer les Français, parce que pas oublier quand même qu'Emmanuel Macron aussi avait annoncé la suspension de la vaccination avec le vaccin AstraZeneca pendant 48 heures. Donc ça participe de la défiance. Donc maintenant, voilà.
Et s'il ne l'avait pas fait, on lui aurait peut-être reproché. Donc
oui,
c'était compliqué
à ce moment-là
aussi.
Il s'était appuyé sur aucune donnée scientifique française. Il s'était appuyé en fait simplement sur la décision de l'Allemagne, ce qui pose d'autres problèmes de souveraineté, d'autonomie. Mais du coup, en fait, au point où on en est, en fait, oui, s'il y a des gens qui veulent se faire vacciner avec AstraZeneca, qu'ils se fassent vacciner et que chacun, qu'on ne crée pas des files d'attente avec des gens qui acceptent ce vaccin dont beaucoup de gens ne veulent plus.
D'autant que vous le rappeliez, hein, on estime que le risque de faire une thrombose après avoir été vacciné est de 0,0006%, alors que le risque de faire une thrombose en prenant la pilule, par exemple, est de 0,06%. La pilule est donc, sur ce point, 100 fois plus dangereuse. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire passer ce message, Henri Vernet ? Il a vraiment un mauvais karma, ce vaccin.
Ah mais oui, complètement, parce que comme Louis venait de le rappeler, il y a eu la suspension décidée par Emmanuel Macron, bon, par d'autres pays européens aussi, il faut bien le dire, en effet. Mais avant même cela, le chef de l'État avait, vous savez, il avait réuni quelques correspondants de la presse étrangère, c'était un mois auparavant, enfin, le AstraZeneca venait à l'époque d'être autorisé après un processus un peu chaotique, et déjà là, il avait mis en doute son efficacité, sa pertinence. Il faut dire qu'il y avait un petit arrière-fond politique aussi, parce que AstraZeneca, c'est le vaccin des Britanniques, hein, d'Oxford, d'ailleurs, largement subventionné à l'époque par l'Union européenne dans ses recherches, et donc britannique, suédois. Bon, et évidemment, c'était l'arme de Boris Johnson, hein, qui avait tellement perdu de terrain en termes d'opinion, qu'il a la repris avec une vaccination qui a marché, et c'était une façon de dire à AstraZeneca, regardez le Brexit, nous, Britanniques, on est vaccinés. Donc ça, en arrière-plan, on ne peut pas s'empêcher de penser que ça a joué. D'ailleurs, parfois, on a entendu des ministres, minimiser un petit peu le succès de cette AstraZeneca. Je me souviens, par exemple, de Clément Beaune, tempérer les succès de vaccins du ministre des Affaires européennes, tempérer les succès britanniques en la matière. Donc il y a aussi cette petite rivalité. Et c'est vrai que ce vaccin, passez-moi l'expression, il en a un peu pris plein la figure. Bon, est-ce que maintenant il peut remonter la pente avec les derniers avatars? Ça paraît pas facile. C'est pas évident. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Louis Draguignel. C'est vrai que les bénéfices la balance bénéfice-risque, oui, dans une pandémie qui dure encore, qui est toujours aussi dangereuse, eh bien oui, les volontaires, je dis personnellement, si on me propose une dose de Zeneca, a priori je suis preneur, j'en ai marre de faire des tests tous les 8 jours, je pense que beaucoup de gens, parce que pour le moindre déplacement, c'est ce qu'on vous demande, et je pense que beaucoup de gens sont dans cette réflexion. C'est vrai que la hâte, c'est quoi aujourd'hui? C'est quand même de reprendre une vie normale, que ce soit sur le terrain social, économique, etc. Et donc oui, ça paraît une solution de bon sens, simplement les volontaires, il va peut-être aller falloir les chercher avec les dents, hein, comme dirait...
Ça doit pas être facile aujourd'hui, Louis Osalter, d'être médecin quand on entend tous ces messages un peu contradictoires. Qu'est-ce qu'on dit aux patients? Est-ce que vous, par exemple, comme Henri Vernet, vous seriez prêt à dire banco l'AstraZeneca, il en reste une dose, j'y vais?
Oui, franchement, parce que Henri Vernet a raison. En fait, non seulement c'est un coût-bénéfice-risque qui est largement favorable au fait de se faire vacciner, quel que soit la tranche d'âge d'ailleurs, mais en plus, il n'y a pas d'autre stratégie. C'est-à-dire qu'en France, après s'être converti au vaccin sur le tard, parce qu'Emmanuel Macron n'y a pas cru au début, maintenant il mise tout là-dessus parce qu'il n'y a pas d'alternative, comme on aurait dit à une autre époque. Il n'y a pas de traitement, ou en tout cas le gouvernement n'a pas investi, n'a pas misé sur les traitements en tant que remède au Covid-19. Donc il n'y a pas de stratégie zéro Covid, parce que en fait la stratégie zéro Covid, on ne peut la mettre en place qu'une fois qu'on a fait baisser significativement la circulation du virus, et qu'ensuite on fait du dépistage cas par cas, on trace le virus partout où il est, et là en France c'est devenu complètement impossible étant donné l'explosion de l'épidémie. Donc la seule arme du gouvernement, c'est le vaccin. Je constate quand même que le message passe mieux qu'avant. Si vous regardez les taux de défiance envers le vaccin avant qu'il arrive, c'est-à-dire à la fin de l'année dernière, on est quand même à des taux assez astronomiques. Et d'ailleurs, le gouvernement a aussi été prudent à cause de ces chiffres-là. C'est parce que sentant dans le pays une défiance à l'égard de vaccins qui utilisaient en plus une technologie mal connue, pas encore utilisée en population générale, avait freiné un peu des cas de fer en disant « attention, le vaccin, on va y aller progressivement, on va laisser les autres vacciner d'abord, on va voir comment font les Anglais, comment font les Allemands. Bon, résultat, ça a marché, mais au-delà de toutes ces espérances et un peu malgré nous, puisque les Américains, les Anglais ont vacciné plus vite que nous. Mais il n'y a pas d'autre stratégie, donc je pense que le message passe mieux et que les Français voient effectivement que c'est le principal levier, et en tout cas celui qui pourrait ramener le plus vite la vie plus normal, selon l'expression du porte-parole du gouvernement, qu'on attendait pour la mi-avril. À mon avis, ça sera pour un peu plus tard.
Je vous donne la parole, Louis Dragnel, mais on découvre à l'instant, là, avec cet urgent de l'agence France Presse, qu'il y aura un retard sur la moitié des livraisons de vaccins AstraZeneca, encore la semaine prochaine pour l'Union européenne. Hein. Pas de chance, décidément, mauvais karma, ça continue. Hein.
Non, mais ce vaccin vraiment est maudit. Je dis ça en rigolant, mais en fait, il y a aussi une responsabilité de la part de cette entreprise qui, en fait, a voulu aussi convaincre les dirigeants européens, montrer ses capacités. Et on voit bien qu'en fait, ils n'ont absolument pas honoré leurs promesses. Mais c'est même pas honoré à 80%. C'est qu'on voit bien, ils ont en fait honoré 20% du contrat qui les liait avec l'Europe. Donc c'est comme si vous achetiez une maison et que vous arrivez devant votre hypothétique maison et qu'il n'y a qu'une seule porte, quoi. Mais c'est un peu ça avec AstraZeneca. Et du coup, tout ça participe aussi de sa mauvaise réputation. Et c'est vrai qu'au point où on en est, au point où on est la réputation d'AstraZeneca, d'ailleurs, ils ont changé de nom pour essayer d'évacuer toute cette mauvaise réputation, ils peuvent plus se permettre le moindre retard. Enfin, c'est comme le mauvais élève qui récidive. Hein.
Le mauvais élève récidive, effectivement. On va poursuivre ce débat dans un tout petit instant, les grandes voix. On va changer de sujet. Tiens, on va s'intéresser à ce nouveau coup de froid dans les relations franco-algériennes après l'annulation hier soir à la dernière minute de la visite de Jean Castex qui était prévue pour ce dimanche à Alger. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Mieux.
18h50, c'est la suite de votre débat des grandes voix sur Europe 1. Toujours avec Louis Osalter, journaliste politique à Marianne, Henri Vernet, rédacteur en chef parisien, et Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Alors, la visite officielle du Premier ministre Jean Castex en Algérie, qui devait avoir lieu ce week-end, a été annulée hier soir à la dernière minute, officiellement en raison de la crise sanitaire, officieusement parce que les Algériens trouvaient que la délégation française n'était pas à la hauteur. Une délégation pas à la hauteur alors qu'il y avait quand même Jean Castex et quelques ministres de poids comme Jean-Yves Le Drian et Bruno Le Maire. Vous y croyez, vous, à cette excuse, Louis Dragnel ?
Ah mais absolument pas du tout, parce qu'en fait, les Algériens font ça quasiment systématiquement. La dernière fois, lorsque Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, voulait aller à Alger de la même manière, son voyage a été ajourné. Et en fait, c'est systématiquement comme ça. En fait, rien ne convient aux autorités algériennes dans toutes les propositions que fait la France. Il y a eu le rapport Stora sur la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la guerre d'Algérie, où franchement, la France n'a jamais fait un pas aussi avancé à l'égard de l'Algérie. Et les Algériens veulent toujours, toujours plus. En fait, ils sont insatiables. Ce pouvoir, vraiment, nous en veut énormément. Et en fait, à chaque fois, on est tributaire d'enjeux nationaux internes à l'Algérie, puisque la haine anti-française, anti-français, en fait, permet de capitaliser politiquement. Et à chaque fois, en fait, on envoie des gestes. Il y a quelques années, au moment où on a mené la coalition pour créer le G5 Sahel, pour lutter contre l'État islamique dans l'Afrique de l'Ouest, au Sahel, on avait décidé, en fait, de faire signer les accords à Alger, précisément pour mettre l'Algérie au cœur du dispositif. Et en fait, les Algériens n'ont absolument rien fait dans l'opération. Et sur tous les sujets, c'est comme ça. On nous reproche systématiquement la colonisation. Souvenez-vous, Emmanuel Macron, c'était quand même excusé, avait parlé de crimes contre l'humanité à propos quand même de l'action des militaires français pendant la guerre d'Algérie. C'est quand même quelque chose d'extrêmement fort. Et en fait, ils ne sont jamais satisfaits. Et même, je reviens simplement sur le rapport Stora. Donc nous, on a tendu la main. Que répondent les autorités algériennes il y a quelques semaines? Elles disent en fait, ça ne nous convient pas. Et surtout, nous, on refuse de donner l'accès de nos archives aux chercheurs français. Donc en fait, sur toute la politique, à chaque fois, c'est extrêmement compliqué. En matière migratoire, c'est exactement pareil. Par exemple, un clandestin sur deux qui a la nationalité algérienne, qu'on cherche à expulser en Algérie, eh bien l'Algérie ne reconnaît pas ses ressortissants comme étant les siens. Et voilà, sur tous les sujets, c'est comme ça. Et à chaque fois, on est tributaire de problèmes internes à l'Algérie. Et on n'ose pas, en fait, s'affranchir de cette culpabilité. Et du coup, c'est l'espèce de spirale infernale et jamais un politique français n'ose dire maintenant, ça suffit. Et je pense qu'il serait grand temps qu'on le dise parce qu'en fait, on n'a pas à s'excuser de tout. Moi, la guerre d'Algérie, j'étais pas né quand ça s'est produit. J'ai pas à m'excuser de ça. En revanche, bien sûr, il faut regarder l'histoire dans son intégralité. Mais voilà, je pense qu'on est quand même arrivé à la fin d'un cycle dans les relations avec l'Algérie. Et maintenant, il faut assainir quand même ces relations, avoir des relations normales comme avec tout pays classique. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est toujours pas le cas.
Il est très, très dur, hein, ce constat. Louis Dragnel, vous êtes d'accord avec ça, Henri Vernet ?
Alors, en bonne partie, oui, c'est vrai que là, c'est une relation qui est passionnelle, qui est imbriquée, qui est presque viscérale entre ces deux pays. Et donc, c'est une relation, vous l'avez dit, qui est extrêmement tributaire des enjeux internes. Alors, cela dit, quand vous parlez de haine anti-français, moi, je suis beaucoup plus mesuré. Disons que c'est... Alors, d'abord, ça ne concerne pas la population. Ça, il faut bien le comprendre. Vous l'avez bien dit. La plupart ne sont pas... 75% des Algériens ont moins de 30 ans. Donc, non seulement ils n'étaient pas nés par la guerre d'Algérie, mais ils n'étaient même pas... Enfin, leurs parents non plus, quoi. Donc, ça... Et ils n'ont pas ce ressentiment anti-français que cultive, en effet, non pas tout le pouvoir, en tout cas pas l'apparence du pouvoir, qui est, par exemple, le président Tebboune, mais ceux qui sont réellement au pouvoir, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les décideurs, les généraux. Et c'est moins de la haine qu'un fonds de commerce, parce que ces gens-là ne tirent leur légitimité, c'est la fameuse APL, hein, l'armée nationale populaire, qui est l'héritière de l'armée du FLN, de la NL, et donc ceux-là ne tirent leur légitimité dans un pays quand même qui ne progresse en rien sur les plans de la démocratie, de la participation des citoyens, d'élections libres. Tout cela est encore un rêve en Algérie, n'existe pas. Bref, la seule légitimité qu'ils ont, c'est ça, c'est d'être en quelque sorte les détenteurs de l'indépendance.
Ce que vous nous dites, c'est que le gouvernement algérien, il instrumentalise finalement ces relations avec la France.
Et on voit bien d'ailleurs que là, moi, ce coup de froid, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître au gouvernement, au président Macron, parce que ça a commencé bien avant Castex, c'est vrai d'avoir fait toute une série de gestes extrêmement importants avant même le rapport Stora. C'est vrai qu'il y a eu la déclaration sur le crime contre l'humanité qui avait été faite à Alger alors qu'il était candidat, donc en 2017, et qui avait été un séisme, qui avait été évidemment très apprécié en Algérie, mais qui avait secoué beaucoup politiquement en France, parce que vous avez quand même encore un attachement assez viscéral chez certains, les descendants des colons, des harkis, etc., qui ont un rapport plutôt compliqué, qui reste compliqué. Bref, alors évidemment, ce rapport Stora, des gestes tout récents sur les archives, sur la reconnaissance de la culpabilité de l'État français, des militaires dans l'assassinat de l'avocat nationaliste Boumendjel. Bref, il y a eu toute une série de gestes qui en effet ne sont pas reçus, mais qui ne sont pas reçus par ces décideurs. Il y a eu un durcissement tout à fait récent des généraux algériens qui parlent maintenant, par exemple, de millions de chaïds, de victimes, c'est-à-dire les morts résistants de la guerre d'Algérie. Non, il y en a un million et demi, même selon les historiens même algériens. Bon, et selon les historiens français, on est plutôt entre 250 000 et 500 000. Mais bref, cette espèce de surenchère victimaire montre qu'il y a un raidissement des généraux. C'est d'ailleurs intéressant de constater que le président Tebboune, qui lui-même, bon, mal élu, très mal élu, il y a un an et demi, qui a succédé donc à Bouteflika, mais bref, lui avait eu des déclarations au tout début plutôt favorables aux suites du rapport Stora, ce travail qui est engagé par la France. Et hop, maintenant on voit bien que les militaires, les généraux, les décideurs resserrent la bride. Et ce coup de froid, il intervient à ce moment-là. On a l'impression que ces décideurs ne veulent rien lâcher. D'ailleurs, le chef d'état-major a
changé. Ils n'ont jamais tendu la main à la France. Alors, il n'y a jamais eu de geste à l'égard de la France.
En plus, ils reprochent à la France, en quelque sorte, d'être partisane du mouvement Irak, hein, le mouvement contestataire populaire qui continue. Et donc, la France, en effet, se retrouve piégée là-dedans.
Louis Osalter, vous êtes d'accord avec ce que disait tout à l'heure Louis Dragnel ? Il faudrait qu'il y ait quand même quelqu'un qui tape du poing sur la table et qui dise « ça suffit ».
Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne position à adopter pour la France. Parce qu'en fait, on aura beau dire tout ce qu'on veut, le problème est d'abord algérien. Le problème, c'est que la guerre d'Algérie n'est pas terminée, en réalité. Les accords de 62, les accords d'Évian, c'était un cessez-le-feu. Ça ne pouvait pas être un armistice parce que c'était une guerre civile. On était dans le cadre d'un même pays et l'Algérie, à l'époque, était un département français. Depuis, la France a effectivement fait des pas pour reconnaître au moins des faits et essayer d'établir une mémoire partagée et un petit peu apaisée. Et mes deux confrères l'ont très bien dit, le problème, c'est que la vie politique algérienne, le système politique algérien, carbure essentiellement une chose, c'est le ressentiment. Moi, je ne dirais pas la haine anti-française, parce que c'est vrai que dans la population algérienne, qui est très jeune, qui n'a pas connu la guerre. C'est pas vraiment ce qui est cultivé, mais le système politique vit de ça. C'est la rente, c'est le ressentiment envers la France coloniale. Et tant que l'Algérie ne s'est pas sortie de ça, elle n'ira jamais de l'avant. Quant à la position adoptée par la France, alors Emmanuel Macron fait un pari, encore un, qui est la réconciliation, tendre la main. On voit les gages qu'il a donnés. Il y a plusieurs dates importantes qui l'attendent. 17 octobre, ce sera l'anniversaire de la répression de la manifestation des travailleurs algériens par la police française en 61, qui sera l'occasion d'un message qui sera adressé par le président de la République. Et surtout, en mars 2022, en pleine campagne présidentielle, 19 mars, commémoration des accords d'Évian. Là, le président Macron va être très attendu au tournant, parce que c'est un sujet qui va évidemment s'inviter dans la campagne présidentielle. Et c'est heureux, parce que c'est un sujet important pour la France. Mais tant que les Algériens n'auront pas eux-mêmes tourné une page en arrêtant de faire carburer leur vie politique interne à partir de là, on n'avancera jamais.
Et si je vous comprends bien...
Ils sont très contestés par la rue, tout simplement.
Effectivement. Si je vous comprends bien, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Vous reviendrez nous en reparler. Merci beaucoup à tous les trois. Merci les grandes voix du vendredi.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, toute l'info avec le retour de Christophe Lamarre pour le journal de 19h. A tout de suite.
Europe 1, écoutez le monde changer.